C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de ces marques de food qui se la jouent locales. Et puisqu'on est dans le local, eh bien, je suis avec mon ami Camille Poignant qui est loin. Qui est, où es-tu, tiens, Camille?
Je suis en Sarthe, dans le terroir, Thibaut.
C'est
du local, exactement. Alors nous, on n'a pas les réseaux sociaux, mais par contre, je peux en discuter. Jouer la carte du local pour une marque, c'est s'assurer les faveurs des gens qui connaissent bien la marque depuis le début, qui vous feront toujours confiance. C'est un moyen d'illustrer les valeurs fondamentales et bien françaises de partage, de proximité et de simplicité. Et enfin, le local, c'est aussi synonyme de bouche à oreille, bien sûr.
Ouais, bah, en tout cas, le futur sera local. En tout cas, c'est ce que semblent penser les consommateurs. Hein. La tendance des consommateurs aujourd'hui à privilégier des produits avec une origine territoriale, eh ben, ça s'est encore affirmé en 2020. Alors évidemment, les confinements n'y sont pas pour rien, loin de là. Hein. Selon une étude Kantar, 69% des Français déclarent préférer acheter des produits qui sont fabriqués dans leur région ou dans une région proche de chez eux. 69% des Français, les chiffres sont globalement nettement à la hausse de ce côté-là. Et du coup, pour les grandes entreprises agroalimentaires mondialisées, ils doivent redoubler d'efforts pour rassurer ou en tout cas assister de la meilleure des manières à ce changement de paradigme.
C'est magnifique ce que tu dis, Thibaut, et ça résonne hein, avec ce que j'ai pu voir aussi. Là, tu parles d'industrialisation, de grosses industries. Ça résonne avec ce que j'ai pu lire et trouver dans tous ces comptes dont on va parler. C'est que à un moment, c'est la surindustrialisation, c'est l'arrivée du grand business en France, qui a justement inversé tout ça. Et aujourd'hui, c'est l'inverse qui est en train de se produire. C'était les années 60, et 50 ans plus tard, ça se retourne.
Ouais, 60 ans. Et là, aujourd'hui, les marques locales, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous, consommateurs, ça nous intéresse, les marques locales? C'est que ça donne l'occasion de savoir, peut-être d'accéder aussi à davantage de transparence. Consommer local, c'est un moyen de savoir d'où vient mon produit, puis aussi d'avoir des gages de qualité et de sécurité qui sont bien supérieurs. En tout cas, c'est la présomption qu'on en fait. Consommer local, c'est aussi, pour nous, consommateurs, peut-être un moyen de répondre à des enjeux qui sont environnementaux. Bref, tout ça bouge actuellement et les marques de food françaises, elles appuient aussi plus fort que jamais sur leur ancrage local. Et aujourd'hui, effectivement, on vous propose un tour d'horizon de ces marques agroalimentaires de food françaises qui se la jouent du coin. Est-ce que tu veux commencer, Camille, avec un...
Ouais, je veux bien commencer. Et je remarque un truc aussi, hein, dans la manière dont on prépare ce podcast-là. L'industrie a été, on va dire, les 10 dernières années un peu montrée du doigt. C'est pas bien de consommer industriel. C'est pas bien, etc. Les grosses marques, les grosses industries. Mais finalement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie, qui ne peuvent pas aller au marché, faire les courses dans du super local, on va dire. Mais pour eux, une industrie dans laquelle ils peuvent avoir confiance, une industrie de proximité, ça leur plaît aussi. Et c'est pour ça que ces marques, elles avaient tout intérêt et elles ont encore tout intérêt aujourd'hui à communiquer sur l'ancrage local.
Exactement. Allez, qui est-ce que tu veux nous présenter comme marque, s'il te plaît, Camille, ce matin?
Comme on parle de food et qu'il est 9h14, je vais te parler d'une brasserie. voilà. La brasserie Pietra, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette fameuse bière corse à la châtaigne qui fait du bien par où ça passe quand la chaleur se fait sentir. C'est aussi la première brasserie corse montée en 92 par ses créateurs sur le simple constat qu'il n'y avait pas de bière corse à l'époque. Sur Insta, la marque met fortement en valeur son ancrage corse, avec notamment des hashtags locaux très présents, comme Soif de Corse, très bien trouvé d'ailleurs au passage, Sikam Pemou, désolé si je le prononce mal, ça veut dire un bon moment en Corse. Et sous les posts, alors ce que j'ai trouvé très bien et qui m'a incité à parler de cette marque, c'est qu'ils utilisent déjà énormément l'UGC, hein, qui est un type de contenu que nous on adore.
Sous ces posts, User Generated Content,
contenu créé par les utilisateurs. Exactement. Sur les posts, dans les hashtags, on retrouve bien sûr les hashtags indispensables, Corse, Corsica, mais aussi beaucoup de mots tout simples traduits du Corse, Muntana Corse, Biera Corse, Paradisou. Alors, ils ont rajouté ce petit mot, ce petit bout d'ancrage local jusque dans les hashtags. Et au-delà de ce travail, hein, la ligne éditoriale, elle est très fortement ancrée dans la Corse et particulièrement avec beaucoup d'UGC, comme je te le disais. On dit souvent que ça fait plus vrai, plus authentique, mais aussi, on voit aussi que l'UGC fait plus local, qui renforce ce côté de proximité. Donc là, c'est de jolies photos de bière postées dans de beaux paysages corses. Il est un peu tôt pour en parler, mais pour les brasseries, hein, ces contenus-là, c'est une aubaine pour toutes ces marques de foot dont on va parler. Ces contenus, ils sont aussi réunis sous le hashtag et la highlight soif de Corse. Bien trouvé, deuxième fois. Et on remarque notamment une collaboration ou alors une forte amitié avec le compte La Corse Autrement, qui est un compte blog voyage, hein, qui a plus de 115 000 abonnés et qui emporte des bières un peu partout en Corse pour nous sortir de magnifiques photos. Donc je trouve que voilà, c'est pas de la food à proprement parler, mais c'est un super contenu et c'est bien français.
Ça dépend pour qui. Et puis en plus il y a de la chatte dedans, donc c'est.
Oui, voilà, on peut dire que c'est un fruit et légumes.
Exactement. Allez, moi je vous emmène eh bien tout ailleurs. On retourne en France ou presque, puisqu'on va en Savoie. et je vais vous parler ce matin de Alpina Savoie. Alpina Savoie, c'est une marque qui appartient au club très fermé des entreprises qui sont plus que centenaires. C'est une marque qui est née en 1844, figurez-vous, Alpina Savoie. C'est une fabrique de pâtes qui sont faites exclusivement ou presque à partir de blé. C'est du blé 100% français. Et puis, c'est une marque, évidemment, qui s'est fait connaître. Vous ne pouvez pas les rater pour ça, pour ces crozets. Hein. Vous savez, ces pâtes de farine de blé savoyarde traditionnelle, c'est une spécialité du coin. Et comme son nom l'indique, Alpina Savoie, eh bien, c'est une marque qui est installée à Chambéry, la capitale de la Savoie. Voilà. Difficile de faire plus local, je trouve, que Alpina Savoie. Allez, petite historique quand même sur la marque. 1844, Antoine Chiron qui donne naissance à la marque. C'est encore aujourd'hui la famille Chiron qui est derrière Alpina Savoie. Je sais, toi, Camille, que tu as eu le plaisir d'aller les visiter il y a pas si longtemps que ça. Et c'est encore la famille Chiron, hein, qui s'occupe d'Alpina Savoie. Hein.
Exactement, grosse proximité, on les avait rencontrés dans le cadre d'une série d'ailleurs sur l'ancrage local pour Cochonou et non, grosse proximité, grande sympathie, ils ont pris un moment à l'un des créateurs, l'un des héritiers fondateurs pour discuter avec nous, pour nous parler de la marque avec une vraie passion pour le local, l'écologie et tout ce qui est durable dans leur perspective.
Exactement. Et du coup, cet Antoine Chiron, il donne naissance à la marque en 1844. À l'époque, la Savoie, hein, rappelons-le, elle n'est pas française, elle appartient au royaume de Piémont-Sardaigne. On est en 1844 et cet entrepreneur, eh bien, il installe un moulin à Chambéry. Et aujourd'hui, bah, ce moulin, il est encore en activité. Alors évidemment, il s'est modernisé, hein, très nettement. Et c'est un moulin de blé dur et c'est un savoir-faire qui est vraiment assez unique parce qu'il n'y a plus que 5 moulins de ce type en France. Voilà, hein, ça c'est juste pour un peu situer. Sur les réseaux, vous pouvez retrouver Alpina à peu près partout, mais surtout sur Instagram où je trouve que c'est très intéressant ce qu'ils font. 3600 abonnés, compte assez modeste en termes de communauté et pour autant, il se passe pas mal de choses. Alors, évidemment, il y a beaucoup de très belles photos de produits, de pack shots, de recettes, de croziflettes, de tartiflettes, de plein de trucs à aller découvrir. Voilà, il y a même d'ailleurs du couscous qui est fait avec Alpina Savoie, comme quoi. Et puis, ce que je vous invite à jeter comme coup d'œil, c'est du côté des highlight stories. Les highlight stories, ici, elles sont très bien utilisées, je trouve, sont utilisées pour rendre compte des processus de fabrication, de l'ancrage historique de la marque à Chambéry. Puis on y parle aussi de la filière agricole et même du packaging. Vraiment, les highlight stories, elles sont travaillées sur l'angle de l'ancrage et l'ancrage local, vraiment la logique de territoire. C'est bien, bien fichu. Allez jeter un coup d'œil. Et puis, au milieu aussi de ces très jolies photos de recettes, hein, eh bien, vous allez retrouver des carousels Instagram qui, là aussi, je trouve, sont très bien pensés. Et qui disent, en gros, chez nous, on ne lésine pas sur le savoir-faire et le goût. Et pareil, la marque réappuie visuellement sur, eh bien, cet ancrage local. Je trouve que c'est intéressant. Et ce qui est, c'est encore plus intéressant si on s'extrait 2 secondes d'Instagram et des réseaux sociaux pour penser business. L'ancrage local et le travail qu'a entrepris cette marque Alpina Savoie depuis des années autour des filières françaises, ben, ça a été vraiment un des atouts pour traverser l'année 2020. On le sait, l'année 2020, elle a été mouvementée pour bien des marques. Et du côté d'Alpina Savoie, avec le confinement, ben, son activité, elle a quasiment doublé, ce qui est quand même fou. Les matières premières, le blé, le riz, le quinoa, bref, tout ce qu'ils mettent dans leurs produits Alpina Savoie, eh bien, c'est français. Même les packaging, ils sont fabriqués dans le coin, ils sont fabriqués en Savoie. Le film plastique, il est fabriqué en Rhône-Alpes. Tout est du coin. Et qu'est-ce que ça offre? Eh bien, ça permet de, là où les concurrents, là où les autres sont retrouvés en galère d'approvisionnement, eh bien là, Alpina Savoie avait tout internalisé. Donc, ce qu'on, pensé local. Donc, ce qu'on se rend bien compte, c'est que évidemment, c'est un angle de communication fort pour les consommateurs hein, qui ont, sont en train de déplacer leur manière de consommer, mais aussi en termes business, ça fait sens plus que jamais à l'heure où bien on le voit bien, on peut avoir des problèmes d'approvisionnement, etc. Et penser global est en train de se compliquer.
Et tu parlais de ces carrousels, hein, ces carrousels, ils sont aussi, ils permettent donc un ancrage de renforcer cet ancrage local, mais aussi les relations avec les agriculteurs. Là, tu parles de filière, on voit, ils nous parlent aussi d'engagement, ils nous parlent de contrats signés avec des agriculteurs, qui sont des engagements très forts pour une marque. Hein, ça fait plusieurs années que c'est un peu au cœur du game de l'agro, de montrer que tu t'engages, que tu signes des contrats. Et puis pour ce qui est de l'ancrage local, hein, il y a toujours leur logo sur fond bleu. Avec écrit Savoie, on peut pas faire plus ancrage local, je crois.
Voilà. Moi, forcément, tu sais, j'ai toujours du Alpina Savoie dans mon placard. Allez, ouais. Qu'est-ce que t'as d'autre?
Là, on remontait la France hein, gentiment de la Corse au Rhône-Alpes. Je vais faire un petit saut de puce jusqu'en Bretagne avec la Belle-Illoise. Est-ce que ça te parle, la Belle-Illoise, Thibaut?
Oui, ça me parle.
Eh bien, la Belle-Illoise, un savoir-faire français, le plaisir de bien manger depuis près de 90 ans et des boîtes au design intemporel. Surtout, c'est ça qu'on retient de la Belle-Illoise quand on ne connaît pas son histoire. Ces boutiques qu'on retrouve, ces boutiques de conserve haut de gamme et colorées qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les grandes villes françaises et bien sûr sur le territoire breton. Je vais te refaire un petit historique de cette marque parce qu'il est quand même assez passionnant. La conserverie, la Belle-Illoise a été créée en 1932 dans le Morbihan à côté de Quiberon. Ils avaient un accès direct à la mer qui était à l'époque un gage de qualité pour travailler un poisson frais, tout juste débarqué des bateaux. Dans les années 60, l'histoire des grandes conserveries, comme je t'en parlais tout à l'heure, elle est chamboulée par l'arrivée de la grande distribution, l'automatisation des processus, la réduction des coûts humains. Et en 67, donc 7 ans après ce bouleversement, Georges Hillier, son fondateur, décide de s'affranchir de la grande distribution pour vendre ses conserves en direct aux consommateurs et l'arrivée donc en 67 de sa première boutique. Après plusieurs générations, ça passe de main en main de fils de filles et aujourd'hui c'est une des filles Hillier qui lance ce design innovant hein, qu'on connaît depuis 7-8 ans qui crée un souvenir, qui crée une gamme qu'on a envie de rapporter de vacances, qui crée aussi une envie d'acheter un produit différent et assez unique.
Moi j'ai presque l'impression que la Belle-Illoise c'est la conserve de la carte postale.
Ouais, carrément.
Et de la conserve, je sais pas dans quel sens.
Non, c'est ça, et c'est aussi, je trouve, une alternative au magasin de souvenirs classiques. Franchement, le bol avec le prénom, tout le monde l'a. La carte postale, comme tu dis, ou la bouteille de pommeau ou de cidre, c'est pareil. Là, on a un produit qu'on peut manger. On sait qu'il est bon, et ce qui est assez malin, c'est qu'on peut le retrouver partout en France, sur toutes les côtes, jusqu'à Lyon, jusque dans les capitales. C'est très malin, mais à la fois ils ont dû s'adapter à un secteur qui a été durement touché dans les années 60. Et sur leur compte Insta, hein, je trouve que ça reflète tous ces aspects de la marque et de son passé. Alors bien sûr, hein, comme pour Alpina, on trouve de belles recettes, de belles photos de dégustation. Bien sûr, c'est de la food, mais on entre aussi et très récemment par une série de posts hein, dans le quotidien des pêcheurs d'algues à Roscoff. On voit aussi des beaux paysages bretons. Et si on remonte un petit peu dans le temps, en décembre, on rentrait directement dans les conserveries. On voyait les employés qui travaillent, qui préparent ces conserves. C'est pas du ultra sexy Insta, hein, c'est des tonnes d'anchois ou de poissons ou de sardines enfilées sur des broches qui vont être mises à la main dans des boîtes. En tout cas, je trouve que ça donne vraiment envie de goûter ces produits et on découvre ce qu'il y a derrière la boîte et derrière la vitrine.
Très bien. Donc ça, c'est la Belle-Illoise.
Exactement.
Écoute, moi, on va rester en Bretagne parce que je vais vous proposer d'aller jeter un petit coup d'œil du côté de Pouldreuzic. Est-ce que tu sais ce qui se passe à Pouldreuzic?
Non. je vais sûrement connaître la marque, mais
Pouldreuzic, c'est là où s'est installée une marque familiale qui a été fondée en 1907 par Jean Enaf. C'est la fameuse marque Enaf, le pâté Enaf. C'est mythique, le pâté Enaf. Cette fameuse petite boîte bleue. Iconique. On a l'impression qu'elle a toujours été là dans notre paysage ou dans nos placards. la marque Enaf, et puis aussi sur les peintures murales. Tu sais, en ville, quand tu travailles sur la route Napoléon, tu vois ces gros panneaux marqués pâté Enaf, etc. C'est une marque qui est là et je trouve que cette marque, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est une vieille marque, 1907. C'est une marque qui est iconique et qui a jamais été aussi actuelle. C'est une marque contemporaine, Enaf plus que jamais. Et c'est très, très bien, très intéressant ce que fait le pâté Enaf sur les réseaux sociaux. Croyez-le ou non, allez jeter un coup d'œil sur leur compte Instagram Enaf_officiel. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dessus? L'ancrage local, eh bien, il est bossé avec une vraie authenticité. C'est vraiment très, très bien fait. On retrouve évidemment pas mal de photos, de la Bretagne, hein, des plages bretonnes, etc. Et puis évidemment, le siège social de la société, hein, parce que le siège social de la société, il est historique. Évidemment, il se prête très fortement à raconter une histoire. Chez Enaf, la salle de réunion, par exemple, c'est une ancienne literie à la bretonne, tu sais, avec ces grosses pierres en grosses pierres d'époque. Il y a aussi un château d'eau, hein, dans la ville de Pouldreuzic, un fameux château d'eau qui est peint aux couleurs de la marque. Bref, Enaf a de quoi faire. Et puis, ils ont notamment une astuce, on va dire, un cheval de Troie. C'est leur mythique boîte de conserve bleue et jaune qu'ils utilisent vraiment comme un levier pour générer de l'UGC, générer du User Generated Content. En gros, les consos, les clients de la marque Enaf, ils sont tellement fans de cette marque qu'ils la prennent en photo aux quatre coins de la France, peut-être même aux quatre coins du monde. Et ils envoient tout ça à la marque. Et la marque se régale pour remplir leur compte réseaux sociaux. Il y a plein de trucs très intéressants. Allez, quelques-uns comme ça à aller retrouver sur leur compte Instagram. Déjà, il y a tout est fait maison chez Enaf, hein, ça c'est leur promesse, y compris d'ailleurs leur musique de pub. Il y a une super vidéo à aller découvrir en ce moment sur leur compte Instagram, dans lequel on voit comment, entre guillemets, a été conçue la pub Enaf, en tout cas la musique de la pub Enaf, avec ça se passe à l'usine et ils tapent sur des conserves Enaf. Voilà, c'est assez rigolo, c'est très bien fait et ça met en scène aussi tous les gens du coin. Un artiste, un musicien du coin, des gens de l'usine, des gens des bureaux, pareil, local. Ensuite, autre truc, autre série où là aussi ils appuient très fort sur l'ancrage local, c'est cette web série très sympa à aller découvrir. Alors vous pouvez la voir en teasing sur Instagram, elle est aussi disponible sur YouTube, ça s'appelle J'irai dormir chez moi. Voilà, on peut pas faire plus local. Le pitch, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est plutôt que courir au bout du monde, eh bien, il y a des joyeux surfeurs finistériens du coin, donc, qui ont profité de la parenthèse entre les deux confinements, eh bien, pour faire un surf trip. Où ça? Chez eux, bah là, dans le Finistère, en Bretagne. Et du coup, ils font 100 km sur la côte finistérienne. Ça se passe en une semaine et tout ça, ils l'ont raconté dans une web-série. C'est ultra cool, ultra frais, ultra jeune, très bien fait, très authentique. J'adore. Ensuite, allez, dernière chose sur Enaf. C'est pour dire, cette marque, il y a quelque chose quand même. Hein. Il y a quelque chose parce que non seulement c'est une marque bretonne, ça vous l'avez bien compris, l'ancrage, mais aussi c'est une marque astro-alimentaire. Est-ce que tu savais ça?
Je crois que je vois où tu veux en venir. Il y a quelques dizaines de semaines, il y avait une photo de Thomas Pesquet au pied de leur fameux château d'eau Enaf qui ramène toujours des stars. Donc, j'imagine que c'est de ça que tu parles.
Exactement, puisque Thomas Pesquet mange du Enaf. Alors, il en mange sans doute chez lui, mais il en mange aussi dans l'espace. Hein. Pendant son séjour dans l'espace, l'astronaute et son équipe vont manger des plats cuisinés qui ont été travaillés entre le chef Thierry Marx et conditionnés par Enaf. Voilà, donc c'est siglé Enaf, c'est assez cool. Et puis, ça fait quand même un paquet d'années que la marque Enaf travaille pour la Station Spatiale Internationale. Ça fait exactement 10 ans que la marque travaille pour la Station Spatiale Internationale et qu'elle fournit de la nourriture. Et la marque, elle travaille depuis 2019 aussi avec le CNES sur l'alimentation du futur pour les voyages spatiaux lointains, Lune, Mars, etc. Ils font vraiment de la recherche sur comment est-ce qu'on peut mettre en conserve, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans pour que ça flotte bien dans l'atmosphère. Je trouve ça génial d'imaginer qu'une marque qui a été créée en 1907 au fin fond de la Bretagne soit aujourd'hui dans l'espace. C'est beau, c'est magnifique. Vive la France, vive la Bretagne.
Thibaut, t'aurais pas des origines bretonnes, dis-moi, par hasard?
Il y a un gros lien d'amitié et de sympathie hein, entre la Bretagne et la France.
Tu viens de nous faire un couplet là, vraiment magnifique. ENAF, on remarque aussi, hein, d'ailleurs, quand on regarde leurs produits là et leur compte Insta, que depuis certains temps là, ils sont, on va dire quelques mois, une dizaine de mois, ils sont passés sur des produits qui ressemblent beaucoup à la Belle-Illoise, hein, ce qu'on a dit avant, des pâtés de pois chiches, de courgettes. Il y a énormément de mélanges et on voit de moins en moins apparaître cette boîte bleue. Sur le compte Insta, je pense que c'est juste passager, mais voilà, à noter.
L'élargissement de la gamme, ouais, c'est vrai, tout à fait.
Exactement. Et d'ailleurs, ils mettent très en avant le bol breton aussi. Bol breton, transition parfaite avec une petite marque. Alors là, j'en écris un peu moins puisqu'on commence à exploser les quotas, Thibaut. La bande passante est dépassée. La Trinitaine, est-ce que ça te parle?
Mais on reste encore en Bretagne, c'est pas possible.
Bah oui, voilà, on reste en Bretagne, dans le Morbihan plus exactement. Est-ce que ça te parle, la Trinitaine, toi?
Oui, je connais, c'est des biscuits, non?
Si exactement. Très célèbre biscuiterie bretonne originaire du Morbihan. C'est 46 boutiques en France, plus de 11 tonnes de biscuits vendus chaque année. Je fais très court là-dessus, mais ce qui m'a fait très plaisir sur l'histoire. En 1955, dans son échoppe de la Trinité, Lucien Petit invente par hasard la recette de la cigarette pur beurre. C'est ce biscuit roulé en forme de cigare. Voilà d'où est née la Trinitaine. Donc c'est une très belle histoire locale. Sur son compte Instagram, la marque joue le côté local avec de très belles photos de la Bretagne en étant implantée un peu partout sur la côte, publier des photos de paysages bretons. C'est aussi l'occasion de mettre en avant les boutiques locales, pourquoi pas les ouvertures. Donc c'est assez intelligent, hein. Ils jouent, bien sûr, ils communiquent sur leur marque, sur leur nouveau magasin, tout en utilisant des photos locales de beaux paysages, parfois de l'UGC. Et puis ils ont, alors ça, on trouve ça beau ou pas, mais ils ont ce régulièrement un poste sur deux dans la grille, cette petite gimmick qui revient, c'est une ardoise comme on peut retrouver en Bretagne avec écrit quelque chose dessus, que ce soit le nom d'un village, un événement, un marronnier, voilà, ils utilisent ça aussi dans leur communication.
Voilà, allez jeter un petit coup d'œil à Trinitaine. Alors évidemment, là on a, il y en a des tonnes, hein, des marques qui ont travaillé cet ancrage local. Ça nous semblait intéressant de souligner, hein, les différentes stratégies de prise de parole de ces marques qui s'appuient sur un écosystème local. Ils sont bien souvent des marques historiques, hein. Alors évidemment, pour de plus gros acteurs, hein, tout le monde commence à se dire, tiens, comment je peux utiliser mon ancrage local? Certaines se sont créées là-dessus, d'autres doivent storyteller tout ça, hein, réinventer en tout cas leur récit. Assez passionnant. On serait ravi d'en échanger avec vous sur les réseaux sociaux @supernatif.
Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Twitch, à peu près partout. Et puis, tu parles de marque ancestrale. Tu en parlais tout à l'heure. Moi, je t'ai parlé de la Belle-Illoise. On avait fait un podcast, l'épisode 414, qui parlait de marque patrimoniale forte française. Donc, ça peut être un lien pour continuer cette balade audio en France. Voilà.
Exactement. On vous met ça en note de l'épisode si vous voulez aller retrouver cet épisode-là et puis les différentes sources dont on a parlé aujourd'hui. Et les amis, on vous donne rendez-vous dès lundi. On vous souhaite un très, très beau week-end. Profitez bien et à lundi. Salut à tous. Ciao, ciao.
À très bientôt. Ciao.